Bonjour, bienvenue à l'épisode 46 de la French Connection. Cette semaine, je serai seul puisque les nouvelles continuent à avancer et nous n'avons pas réussi à trouver d'autres personnes disponibles en cette journée de fête nationale au Québec. Commençons par les chemins plug. Les deux principales, c'est la tenue de Québec Sec le 28 juin, qui est date à nos portes, avec du red teaming social, donc voir comment on peut armer des mesures sur les réseaux sociaux. Et le IAC 2018, qui aura lieu le 7 juillet, avec une demi-journée de conférence. Et une soirée de jeux CTF tout à fait charmant et tout à fait challenge. Donc, les informations seront disponibles sur la page de la French Connection. Maintenant, commençons avec les nouvelles, parce qu'il y en a quand même beaucoup, même si je suis seul, ça risque de prendre un bon moment. Commençons par le fait que une nouvelle stipulant que les développeurs d'applications mobiles font les mêmes erreurs que on faisait avant. Et effectivement, après la lecture de cette nouvelle-là, ça m'a fait énormément sourire puisque tout ce que j'ai constaté quand le monde du web est arrivé, dans le fond, la programmation web est devenue apparente, devenue l'élément dominant. Toutes les erreurs qu'on voyait dans le monde du web étaient toutes les mêmes erreurs qu'on voyait dans le monde de la programmation plus standard non-web, là, l'avant-web, l'avant... Dans une autre époque, pour les personnes qui savent encore, où les erreurs en C, C++ étaient monnaie courante et causaient des problèmes et des maux de tête assez importants, qui maintenant sont relativement adressés, mais chaque génération de développeurs et chaque génération de nouvelles technologies qui devient accessible au grand public des développeurs subit les mêmes problèmes qu'on voit dans les autres. C'est un peu dommage en soi, mais finalement, on doit réinventer la roue à chaque itération. C'est peut-être un moment de se poser la question si les maisons d'enseignement devraient réfléchir sérieusement à incorporer de façon beaucoup plus importante ces volets-là de programmation sécuritaire, à voir qu'on ne revoit pas ce genre de choses-là. Puis, de toute façon, on risque de revoir le même genre de choses dans le IoT qui risque d'être le même problème qu'on a vu dans les autres domaines, ce qui serait la nouvelle et future technologie. Seconde nouvelle, Apple a diffusé des correctifs importants pour des vulnérabilités connues sur ses différents systèmes. Et à ça, il a eu lieu le WWDC, qui est l'espèce de rassemblement des développeurs sur la plateforme Apple, où en général, Apple, et cette année, n'a pas été exclu par rapport aux autres, est un moment où Apple diffuse toutes les nouveautés qu'ils mettent sur la nouvelle plateforme, autant au niveau... de la plateforme Mac au niveau de la plateforme iOS ou du niveau des périphériques iOS. Et cette année, l'élément principal qui est vraiment ressorti de cet espace-là, c'est un emphase assez important sur la vie privée et conséquemment la sécurité qui s'ensuit. Donc, un et l'autre sont foncièrement très liés dans la réflexion de Apple. Ce qui est une bonne chose pour le consommateur moyen qui a peu ou pas de connaissances dans ce domaine-là, qui se fasse ramener tranquillement dans un modèle où les éléments sont mieux protégés et mieux... faut éviter qu'on se tire dans le pied, finalement. Parce que, dans le fond, la plupart des téléphones cellulaires maintenant sont utilisés par des gens qui n'ont aucune idée de comment fonctionne la technologie, mais ne sont que des utilisateurs. Donc, c'est une bonne chose que Apple prenne la peine de monter le niveau de l'eau, donc de monter le niveau minimal de sécurité pour tout le monde qui est affecté, ou en tout cas sont des grands utilisateurs de cette plateforme-là, dans le contexte, en espérant que les autres grandes plateformes, dont Microsoft, Google et compagnie, suivent cette idée-là de rehausser de façon significative la sécurité de leur système d'exploitation sur leurs différents périphériques, parce que tout le monde gagne à ce genre de choses-là. Puis t'as fait à noter aussi un petit partage, parce que je l'ai fait préférence dans un podcast précédent, mais le changement dans les paramètres de désactivation du port USB est finalement peut-être à la lecture des choses, peut-être un signal que Apple envoie à tous ceux qui essaient de casser le iPhone pour des dans ce cas-ci, des biens quand même légitimes pour les corps de police par le Grey Key. En fait, avant, ça prenait, je pense, une semaine avant que l'actuel port USB se désactive. Et on réduit ce niveau-là à 1 heure. Donc, à ce moment-là, c'est un message clair. Fait que c'est un peu ambigu tant que ce genre de choses-là, parce que savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment qui bénéficie de ça. Mais de l'autre côté, il a déjà dit, la compagnie qui est en arrière de Grey Key a déjà fait des grandes annonces comme quoi cette modification-là n'arrêterait pas leur logiciel de fonctionner. Ils vont trouver d'autres mesures en place pour réussir à casser la sécurité des iPhones, pour réussir à aider les forces de police à faire leur travail. Donc ça va être des choses à surveiller dans les prochains mois, peut-être pas dans les prochaines semaines, mais le comment tout ça va changer, comment on va réussir à trouver un équilibre entre les besoins réels des corps policiers et comment les compagnies de technologie répondent à ce genre de choses-là, sans briser la sécurité pour tout le monde. C'est une fine ligne entre deux mondes. Nouvelle suivante, le NIST a sorti des règles pour encadrer l'utilisation, en tout cas en anglais c'est handling, mais la façon que les sous-contractants vont manipuler l'information. Donc ça permet d'une certaine explication, un certain template pour aider les agences américaines dans ce cas-ci, mais tous ceux qui consomment les différents documents du NIST à aussi un peu leur façon que les sous-contractants manipulent l'information qui leur sont mise entre leurs mains. Dans ce cas-ci, c'est de l'information non secrète, mais cela est valide pour à peu près tout ce que les pods et ce qu'on voit dans nos différents contrats pour tous les sous-contractants, ce genre de choses-là. Une nouvelle suivante, puis en tout cas, on va revenir sur Apple, puis probablement pas la dernière fois. Il y a des chercheurs en sécurité qui ont fait un grand bruit médiatique dernièrement sur le fait que le module Quick Look dans macOS permettait de leaker de l'information. Essentiellement, ce qu'ils ont sorti de leur document, puis je trouve que c'est plus de bruit que ce que ça donne réellement, c'est essentiellement le fait que quand Quick Look va se créer des fichiers de prévisualisation, ce qu'on voit souvent là, quand on voit automatiquement les fichiers s'ouvrir et on voit automatiquement les petits previews qui des images et ainsi de suite, va stocker ça sur le disque dur principal. Un peu à la différence de Microsoft qui, je ne sais plus si la dernière version c'est encore comme ça, mais dans des plus vieilles versions de Windows, ce fichier-là était à le répertoire où l'information était stockée. Ce qui est énoncé par le chercheur, c'est que si on trouve le fait que le document arrive d'un disque chiffré et que le disque principal de l'ordinateur n'est pas chiffré, cela fait que l'information devient à ce moment-là disponible et non protégée. Où je trouve le fait que la nouvelle est un peu farfelue, c'est que, ou en tout cas peut-être pas avec autant de portée que le chercheur voudrait nous amener, c'est que normalement le disque de base du système d'exploitation devrait être protégé au même titre que les disques durs périphériques qui sont branchés dessus. Donc, on devrait plus parler à l'heure actuelle, en 2010, on devrait plus parler du fait que le disque principal d'ordinateur n'est pas chiffré, ce qui est un peu, en tant qu'à ça, une aberration en lui-même. Puis si on se base sur le fait que le nouveau système de fichiers APFS de Apple est fondamentalement chiffré, il y a un certain nombre de questions à se poser sur la valeur de cette nouvelle-là. Il y a été autre nouvelle, vulnérabilité qui a été découverte dans les caméras Axis. C'est une chose qui permettrait de contourner les méthodes d'authentification et de contrôle d'accès sur les caméras, donc permettrait à n'importe qui d'accéder à des caméras qui ne sont de façon non légitime. Avec l'explosion du nombre de caméras qu'on voit, puis malheureusement de gens qui exposent ces caméras-là sur Internet, ce qui déjà à la base ne devrait pas être fait, on risque de retrouver avec des choses d'invasion de vie privée qui vont se faire et des gens avec Snowden par exemple qui vont chercher des périphériques comme ça juste pour aller saigner dans les places où c'était mal protégé. Donc de toute façon, le contrôle de base, c'est de ne pas exposer ces caméras à Internet. C'est déjà là, ça règle déjà une bonne partie du problème, pas toute. Une fois qu'on est rentré dans les réseaux privés, là, on demande non protégé, mais quand même, ça évite le plus gros du problème. Et ensuite, ben, de corriger les différents au fur et à mesure que que les patchs sont rendus disponibles par les fabricants. Puis c'est aussi un dur rappel que tous nos devices IoT qu'on a dans les mains, qu'on branche sur nos réseaux, sont potentiellement des risques à nos propres informations qui peuvent mener à autre chose. Autre nouvelle, la Maison-Blanche et le DHS ont annoncé qu'ils ont développé une forme de programme conjoint, en tout cas unifié au sens du gouvernement américain, où ils ont décidé d'inciter ou de mettre en place des mesures pour aider à la formation de la relève en cybersécurité. Du fait qu'ils ont de plus en plus de misère à rembaucher ou de la misère à retenir, étant donné que la demande est énorme au niveau des cyber-talents. Et donc, ils ont de la misère à garder ce genre de choses. Donc, on va mettre des mesures concertées qui vont permettre à une relève d'arriver peut-être un peu plus rapidement et de façon plus efficace dans le monde de la sécurité. Puis pour le vivre dans un environnement peut-être un peu plus local, ce qu'on voit au Québec du moins, puis je pense qu'en France, ça a l'air d'être similaire selon ce que Damien nous avait mentionné dans quelques épisodes précédents, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de rareté au niveau des ressources. Ce qui arrive finalement, c'est que les différents, au niveau gouvernemental par exemple, ministères et organismes vont se voler des ressources entre eux autres, donc on fait juste comme déplacer un problème à l'intérieur, et il n'y a finalement jamais vraiment beaucoup de monde qui se rajoute au pool ou l'ensemble des ressources disponibles pour aider les différents ministères et organismes à prendre en main leur sécurité. Donc, on se retrouve avec une situation qui est un peu problématique, puis qui n'affecte pas que le gouvernement américain, mais dans ce cas-ci, qui est très agréable de voir que le gouvernement américain prenne les mesures structurantes pour amener à résoudre ce problème-là, qui, ma foi, est assez criant, et étant donné qu'on voit la continuité qu'on voit dans notre quotidien, est très importante de corriger. Autre nouvelle, DNS rebinding, il y a tout ce qui affecte aussi les IoT, l'Internet of Things, nos petits objets branchés qu'on a à la maison. Le DNS rebinding fait que c'est juste de tromper le périphérique pour lui faire croire que l'adresse, le nom de domaine qui va accéder a changé d'IP, donc puis de le diriger vers des systèmes malicieux à ce moment-là pour l'exploiter. En soi, c'est une vulnérabilité très difficile à exploiter, mais ça nous ramène toujours au fait que ces petits gadgets-là qu'on branche dans nos réseaux à la maison peuvent être une porte d'entrée pour des gens qui ont des intentions un peu plus malicieuses et qui voudraient peut-être rentrer et chercher de nos informations, puisqu'on stocke beaucoup d'informations à l'intérieur de nos... de plus en plus d'informations à travers nos réseaux personnels, dans la quantité de photos, informations bancaires et ainsi de suite qu'on possède. Donc, c'est un problème assez important qu'on va devoir regarder. Et chez la plupart des gens qui ont un peu ou pas de connaissances en sécurité, puis il ne faut pas les rire de ces personnes-là ou les traiter comme des moins bonnes personnes, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de connaissances-là en cyber et de notre rôle de les conscientiser minimalement aux risques qui s'exposent. Et dernière nouvelle... les compagnies divergent dans la façon qu'ils traitent les vulnérabilités qui leur sont rapportées. Dans ce cas-ci, c'est une vulnérabilité WEM qui a été présentée à Firefox, Mozilla Firefox et Microsoft pour Edge. Et dans les deux cas, la réponse était fort différente. La première, Firefox l'a réglé très rapidement, l'a incluse dans sa version de production, sa version stable, qui était dans ce cas-ci 59. De Firefox, et dans le cas d'elle, Microsoft n'a réagi que très tardivement et a pris énormément de temps avant de bouger, puisque autant que la vulnérabilité a été divulguée en mars, la patch n'est arrivée qu'en juin, contrairement à Firefox qui est arrivé dans les semaines qui ont suivi. Donc, ça amène un certain problème. Le fait que Microsoft a de nouveau remis son navigateur web proche du OS vient largement alourdir son processus de correctif, contrairement à Firefox, qui a un code peut-être plus léger à ce sens-là à corriger. Donc, encore une fois, les systèmes de Microsoft retombe dans les mêmes vieux patterns qu'on avait dans les années 90 où ils veulent tout remixer ensemble, tout faire ensemble, puis les correctifs de sécurité en souffrent. Pas que Microsoft ait pas de volonté, c'est juste que l'effort de contrôle qualité de modifier du code dans Edge a un impact de contrôle qualité sur l'ensemble du OS. Donc, de ce moment-là, l'effort de correctif est beaucoup plus grand et, dans le fond, empêche Microsoft d'aller plus rapidement qu'il est à l'heure actuelle. Donc, comme un drôle de choix de 10 ans à ce moment-ci qui va finalement par les rattraper. Donc, ça fait pas mal le tour des nouvelles qu'on a pour les dernières semaines. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit très prochainement.